époque-là, en 1866. Et il va y avoir un certain nombre de photos qui vont passer, qui ont été sélectionnées donc par notre présidente et qui vont raconter l'histoire au-delà de Roméo à Curcy. Or, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'orchestre avant Roméo à Curcy. Ah, donc, on va commencer par montrer ces images. Regardez comme ils étaient beaux en 1896, les musiciens de l'orchestre philharmonique, enfin l'orchestre symphonique de Monte Carlo. Il y a une chose que vous pouvez remarquer, alors une chose qui est capitale, c'est combien il y a de femmes. Eh bien, il y en a une seule. Il y a une seule. Ce qui était... Alors, personnellement, je n'ai pas encore travaillé sur cette période-là et je pense qu'on va essayer de lui donner un nom et de l'identifier. Dans les journaux de l'époque, je pense que je vais pouvoir trouver son nom et, l'instrument dont elle jouait. Mais vous savez qu'une femme, en 1896, dans l'orchestre symphonique de Monte Carlo, c'était quelque chose déjà d'extraordinaire, parce que les femmes musiciennes dans les orchestres étaient extrêmement rares. Il faut savoir que les premières femmes à l'Orchestre philharmonique de Berlin ou à l'Orchestre philharmonique de Vienne ne sont arrivées qu'au XXIe siècle. Au XXIe siècle. Donc, l'orchestre était vraiment à la pointe du progrès. Peut-être vous pouvez nous...
Oui. Pour me défendre, oui. Pourquoi vous avez une seule photo de l'époque que André va couvrir aujourd'hui? Nous avons fait des recherches à l'époque pour pouvoir mettre en place cette exposition pendant un an et demi. Et la seule photo qu'on a trouvée de cette époque, c'est celle-ci que vous voyez aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les archives de Monaco, ils ont brûlé. Donc, nous n'avons pas trouvé d'autres photos, que ce soit parmi dans les archives de Palais, dans les archives de la SBM, dans les archives audiovisuelles. On a dû commencer après l'époque André Bacoubré, mais je voulais quand même
une
introduction. Après, fur et à mesure, bien sûr, les photos vont correspondre presque au texte.
Dans les conférences suivantes. Et alors là, on voit les terrasses du casino avec le kiosque. Le kiosque. Et puis en dessous, il y avait le tir au pigeon. Tout ça est évidemment disparu. Voilà le kiosque. Et puis évidemment, il y avait un public très nombreux. Ben oui, parce qu'on aimait les concerts de l'orchestre. Oui, absolument. Et alors ici, nous avons l'orchestre en 1908 sous la direction d'un chef d'orchestre qui a marqué l'histoire de cet orchestre, qui s'appelait Léon Géhin, qui a été le grand chef d'orchestre de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, qui a été le chef d'orchestre qui a accompagné en particulier les ballets russes, toute cette période extraordinaire dont nous parlerons bien entendu l'année prochaine, où l'orchestre était déjà très nombreux, c'était vraiment un grand orchestre symphonique. L'orchestre a atteint une formation de grand orchestre symphonique en 1874 exactement, je vous le dirai tout à l'heure, où il avait aux environs de 80 musiciens. Là, c'est l'orchestre en 1908 dirigé par Louis Gann. Louis Gann, c'est un chef d'orchestre et également compositeur d'opérettes qui était important à la Belle Époque. Il fait diriger non seulement les musiques classiques, bien entendu, mais les musiques de la Belle Époque, les musiques d'opérette, les musiques légères, et on aura l'occasion d'en parler, bien entendu, l'année prochaine. Voilà encore 1908. Alors, 1908, c'est une année qui est très documentée, je vois. 1908, voilà l'orchestre. Ah, ben, c'était l'orchestre dans la salle Garnier. Voici la place du casino et les jardins. Bon, au fond. On s'y retrouve encore. Bon, simplement, il n'y a pas les ombrelles, la manière de s'habiller des gens a un petit peu changé. Là, c'est une partie de l'orchestre avec la... une dame à la harpe. Une dame à la harpe. Alors, je ne sais pas si c'est la même que tout à l'heure, mais c'était peut-être la harpiste, au fond. Parce que c'est vrai que la harpe a été souvent jouée par des femmes. Et donc, est-ce la salle Empire peut-être mais enfin, en formation de musique de chambre, parce que comme toujours, de l'orchestre symphonique, on extrait des petits ensembles qui font de la musique de chambre. Et c'est la fin. Bon, alors, donc, comme vous avez compris, comme je vous l'ai expliqué, ce dont je vais vous parler dans cette première séance, c'est ce qui a précédé tout ce que nous venons de voir et que, ce qui a précédé 1856, même la formation de l'orchestre symphonique de Monte Carlo. Et nous allons revenir, nous allons commencer au XVIIIe siècle, en fait, parce qu'il y avait déjà un orchestre au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, le prince était Antoine Ier, et Antoine Ier était un musicien lui-même. La principauté de Monaco avait à sa tête quelqu'un qui était chef d'orchestre et qui pouvait diriger son orchestre. Alors, il avait un orchestre à demeure. Alors, au XVIIIe siècle, ce n'était pas des grands orchestres symphoniques. C'était à Monaco et dans toute l'Europe, dans tout le monde, des petits ensembles qu'on appelle les orchestres baroques, avec essentiellement des cordes et quelques instruments avant. Mais qu'était Monaco à cette époque-là ? Monaco, c'était un village au XVIIIe siècle. C'était un village. Quelques maisons rassemblées sur le rocher uniquement. Et puis, autour du rocher, eh bien, jusqu'à la frontière italienne, il y avait des paysages agricoles. Il y avait des vaches, il y avait des moutons. Ça fait, c'est amusant d'imaginer qu'à l'endroit où il y a le casino de Monte Carlo maintenant, il y avait des vaches, des moutons, il y avait des oliveraies, on cultivait les orangers, les citronniers, et c'était de ça que vivait Monaco. Monaco vivait de son agriculture, Monaco vivait de sa pêche, et dans la principauté de Monaco, il y avait quand même deux autres petits villages, hein, qui étaient Menton, puisque Menton appartenait à la principauté de Monaco, sous son château, parce qu'il y avait un château à Menton, à l'endroit où il y a à l'heure actuelle le cimetière, mais le château a disparu. Et puis, il y avait Roquebrune aussi, qui appartenait à Monaco et qui vivait blotti autour de son château. Et comment on arrivait à Monaco ? C'était extrêmement difficile. Il n'y avait pas de route pour arriver à Monaco. C'est inimaginable à l'heure actuelle. Il y avait juste des sentiers muletiers ou des chemins où on arrivait à cheval. Mais Monaco était un petit village ignoré de tous. Il y avait une principauté, oui, bon, certains savaient que sur les bords de la Méditerranée, il y avait une principauté, mais en fait, personne ne la connaissait. Et puis, elle vivait donc d'agriculture et de pêche. Et à cette époque-là, au début du XVIIIe siècle, il y avait donc le prince Antoine Ier, qui avait beau être un prince villageois, c'était un prince qui aimait la musique. Et il entretenait un orchestre au sein du palais. Le palais, à cette époque-là, avait à peu près la même allure qu'il a aujourd'hui. Hein, ce grand carré autour de la cour, une façade assez impressionnante. Et donc, dans ce palais, le prince Antoine Ier avait un orchestre. On sait que les musiciens habitaient dans la grande rue qui était au centre du rocher. Il y avait des maisons. Et puis, les historiens de l'époque qui ont étudié l'habitat de Monaco, à cette époque-là, ont repéré qu'il y avait plusieurs maisons de musiciens. Donc, les musiciens étaient logés dans la grande rue et ils venaient jouer au palais. Dans le palais, il y avait une salle de concert et même une salle d'opéra. On donnait des opéras à cette époque-là. Et Antoine Ier dirigeait parfois son orchestre. Alors, il n'avait pas de baguette, mais il raconte dans des documents qui sont au palais qu'il dirigeait avec une canne, comme ça se faisait au XVIIIe siècle, il disait même la canne de Lully. Qu'est-ce que c'est que la canne de Lully ? Lully était ce grand compositeur qui, au XVIIe siècle, était arrivé en France, avait été recruté en Italie par Louis XIV et avait été le grand compositeur qui faisait autorité en France à cette époque-là. Et il dirigeait avec une canne. Ce qui, d'ailleurs, a entraîné sa mort. Parce qu'en 1687, un jour, comme il était en rage, il se donna un coup de canne sur son pied s'infecta, il eut une gangrène, il en mourut. On ne dira jamais assez le danger d'être chef d'orchestre. Et donc, Antoine Ier dirigeait avec la canne de Lully. Il dirigeait un petit orchestre qui avait un chef d'orchestre, qui avait, un maître de chapelle qui s'appelait Jacques David. Oubliez, Jacques David, c'était un compositeur de cette époque-là. Mais il y avait surtout un compositeur qui était attaché à la principauté de Monaco, qui s'appelait Francesco Manfredini. Ce compositeur avait été recruté par Antoine Ier lorsqu'il se trouvait à Venise. Et ma foi, se trouvant à Venise, il avait été ébloui par les compositions de Manfredini. Il lui avait proposé de venir à Monaco. Et Manfredini resta une quinzaine d'années, composa des musiques pour le prince et pour l'orchestre. Et je suis sûr que vous seriez heureux de savoir, d'entendre quelles étaient ces musiques. Et je vais vous faire entendre une. C'est un concerto grosso de Manfredini qui a été dédié au prince Antoine Ier. Et vous allez... Monaco qui était invité par le prince, j'allais dire cette espèce de tradition qui a été retrouvée sous Régnier III, qui invite l'été. Qui vont recommencer là, en juillet prochain, sont une façon de retrouver ce qui se passait au XVIIIe siècle. Et voilà la musique qu'on entendait, et vous allez voir, c'est une musique de très composé à Monaco, qui est dédié au prince Antoine Ier, voilà, par Manfredini. Et la qualité de l'orchestre, même dans cette principauté villageoise, fit parler d'elle, puisque j'ai retrouvé dans des chroniques de l'époque des concerts, enfin au moins un concert qui a été donné à Aix-en-Provence. Hein, voilà, donc on avait appelé l'orchestre de Monaco, Aix-en-Provence, qui était la capitale de la Provence, hein, entendu. Et bien voilà, l'orchestre commençait en tournée. Alors maintenant, l'orchestre va jusqu'au Japon, hein, bien entendu, mais déjà à cette époque-là, aller jusqu'à Aix-en-Provence, c'était déjà quelque chose d'extraordinaire. Alors Antoine Ier avait cinq filles, et il voulut initié à la musique un certain nombre de ses filles, dont une qui s'appelait Marie-Pauline. Il l'a mis au clavecin et elle devint une claveciniste de qualité. Et comme Antoine Ier était très introduit à la cour de France et fréquentait les grands musiciens de cette époque-là en France, eh bien, savez-vous que François Couperin, qui était l'un des plus grands compositeurs français de l'époque, a composé une œuvre pour Marie-Pauline, qui s'appelle « La Muse de Monaco ». À cette époque-là, Couperin et Rameau composaient des musiques pour clavecin, qui étaient des portraits de gens. Hein, si vous fréquentez la musique baroque, vous verrez que Couperin et Rameau font à travers leur musique des portraits de personnages. Et bien là, François Couperin a fait le portrait musical de la fille d'Antoine Ier dans une œuvre qui s'appelle La Muse de Monaco. Vous voulez entendre cette œuvre ? Je vous la fais entendre. François Couperin, composé pour la fille d'Antoine Ier, Marie-Pauline Grimaldi, claveciniste. Oh, la pauvre, elle ne fut pas claveciniste bien longtemps, puisqu'elle mourut à l'âge de 17 ans de maladie. Et Antoine Ier organisait dans le palais de Monaco des concerts de musique de chambre, parce que là, c'est de la musique de chambre, lorsqu'il y a uniquement un clavecin, mais également dans sa résidence secondaire. Et quelle était la résidence secondaire d'Antoine Ier ? C'est un palais que vous connaissez à Menton, je sais qu'il y a des Mentonnais ici, le palais Carnolès. Voilà, le palais Carnolès que Antoine Ier avait fait construire. Et pour relier Monaco à sa résidence secondaire, eh bien Antoine Ier décida de créer une route pour aller de Monaco à Menton. Et ce fut la première route carrossable. Avant, on pouvait aller à pied uniquement ou à cheval. Et donc, ce fut la première route carrossable qui permettait d'aller au salon de musique du palais Carnolès. Antoine Ier, je vous dis, a eu 5 filles, certaines mortes en très bas âge, d'autres adolescentes, comme Marie-Péline, mais aucun fils. Ce qui créa un grand problème à cette époque-là, dans l'histoire de Monaco. Parce que, sans fils, la dynastie Grimaldi allait s'arrêter. Que se passa-t-il ? Antoine Ier avait prévu cette hypothèse et était allé voir le roi de France, Louis XIV, parce que rien ne se faisait à Monaco sans l'aval du roi de France. Et ensemble, ils avaient imaginé la situation suivante. Si un prince de Monaco n'a pas de descendant mâle et qu'il a une fille, eh bien, pour perpétuer la dynastie Grimaldi, il faudrait que sa fille, la fille en question, trouve un aristocrate français qui accepte de changer de nom, de l'épouser et de changer de nom et devenir Grimaldi. Et Louise Hippolyte, puisque c'était le nom de la fille aînée d'Antoine Ier, trouva cet aristocrate français en un certain Jacques de Matignon. Matignon, ça veut dire quelque chose, c'est l'hôtel Matignon, hein, la résidence du Premier ministre. Eh bien, la résidence du Premier ministre, à cette époque-là, français, à cette époque-là, appartenait à la famille de Matignon. Et par la suite, puisque Jacques de Matignon se maria avec Louise Hippolyte, devint la propriété des princes de Monaco. C'est-à-dire que l'hôtel Matignon a été, pendant un certain temps, la propriété des princes de Monaco. Donc Jacques de Matignon a accepté de se marier avec Louise Hippolyte et de changer de nom. Il ne s'appelait plus Jacques Matignon, de Matignon, mais Jacques Grimaldi. Et il fut le premier Jacques Grimaldi, prince de Monaco. Et d'ailleurs, le fils d'Albert II, qui s'appelle Jacques, c'est en fait en hommage à ce Jacques Matignon qui a sauvé d'une certaine façon la dynastie Grimaldi. Parce que s'il n'avait pas accepté, la dynastie Grimaldi s'éteignait. Alors, ce Jacques Ier Matignon avait fait quelque chose de très important pour l'histoire de la principauté de Monaco, mais il voulait en rester là. Il n'avait pas du tout envie de monter sur le trône et de régner sur cette petite principauté de village là, qui se trouvait sur la Méditerranée. Il se trouvait beaucoup mieux à la cour de France et à Paris. Alors que fit-il ? Eh bien, il envoya sa femme à la place. Et Louise Hippolyte, la fille d'Antoine Ier, devint la princesse de Monaco. Et ce fut dans l'histoire la seule femme qui régna, qui prit officiellement les rênes de la principauté. Après, il y a des femmes de princes qu'on appelle princesses. Mais là, Louise Hippolyte Grimaldi, fille d'Antoine Ier, fut la seule femme qui fut officiellement princesse. Elle le fut très peu longtemps, puisque moins d'un an après, elle mourut. Elle mourut de maladie, après avoir fait le bien dans sa principauté. Elle avait continué à cultiver la musique, bien sûr. Elle s'était intéressée aux cas sociaux, à la justice aussi, mais elle est décédée. Donc voilà Jacques Ier qui est obligé de monter sur le trône. Mais il avait toujours peu envie de diriger la principauté. Alors il s'est dit, je vais abdiquer. Et il abdiqua pour son fils, Honoré III. L'ennui, c'est que son fils Honoré III avait 13 ans. C'était un petit peu jeune pour diriger la principauté de Monaco. Donc, il fallut trouver un régent. Et un régent, on le trouva dans les enfants illégitimes de Antoine Ier. Parce que je vous ai dit qu'Antoine Ier n'avait que des filles, officiellement. Mais comme Antoine Ier aimait les arts, aimait la musique en particulier, il aimait aussi le ballet. Et il avait eu des relations très intimes avec des danseuses de l'Opéra de Paris. Et parmi ces relations, eh bien, il y en a une qui lui donna un enfant, Antoine, un enfant illégitime, auquel on fit appel pour être le régent de la principauté de Monaco. Il s'avéra d'ailleurs un très bon régent. Et Honoré III, lorsqu'il devint majeur, prit les rênes de la principauté. On était vers la fin du XVIIIe siècle, et qu'arriva-t-il ? La Révolution. La Révolution. Et la Révolution qui toucha Monaco. C'est une période de l'histoire de Monaco qu'on connaît assez peu, parce qu'on pense que Monaco a existé depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours de manière continue. Eh bien non, mesdames et messieurs, pendant 21 ans à la Révolution, je dis bien 21 ans, la principauté de Monaco a été dissoute, n'existait plus. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on raconte peu. Le prince Honoré III fut emprisonné. Il mourut un an plus tard. Son fils, Honoré IV, fut également emprisonné. Son autre fils, Joseph, lui, prit les armes à l'étranger pour former une armée qui voulut attaquer l'armée française, l'armée révolutionnaire, mais évidemment, ils n'y arrivèrent pas. Et ce Joseph avait une femme, Marie-Thérèse, qui fut décapitée. C'est d'ailleurs la seule femme de la famille Grimaldi qui fut décapitée à la Révolution. Elle avait 27 ans. Elle fut décapitée le 27 juillet 1794,
c'est-à-dire la veille du jour où la révolution a cessé. À un jour près, elle aurait eu la vie sauve. Et elle fut décapitée en même temps qu'un homme célèbre, André Chénier, le célèbre. Il faisait partie de la même, du même groupe qui ont été décapités ce jour-là. Et donc, cette situation a duré tout le temps de la Révolution, de la Terreur, du Premier Empire, jusqu'en 1814. Jusqu'en 1814, où, après l'abdication de Napoléon Ier, la principauté de Monaco a été rétablie. Mais dans quel état ? Dans quel état ? Évidemment, ce petit village n'avait plus de quoi vivre. Et surtout, les ressources dont vivait Monaco n'existaient plus. Parce que quelles étaient les ressources ? C'était la fortune des princes de Monaco. C'était la fortune des princes qui faisaient vivre la principauté. Or, pendant la Révolution, les princes avaient été emprisonnés, la famille princière avait été emprisonnée et tous leurs biens avaient été confisqués. Ils avaient des biens en Normandie, dans le Valentinois, en Provence, et des biens qui rapportaient beaucoup d'argent à la principauté. Et ça n'existait plus. Les princes n'avaient plus de quoi vivre, et la principauté aussi. Alors, lorsque la... Je m'éloigne un petit peu, mais on va arriver à la création de l'Orchestre Philharmonique quand même. Je regarde quand même le temps. Hein, ça avance. Oh là là, ça avance même beaucoup, d'ailleurs. Mais je pense que c'est intéressant de montrer dans quelles circonstances Monaco est devenu Monte-Carlo et l'orchestre a été créé. On est donc en 1814, c'est la fin de la Révolution, la fin du Premier Empire, la principauté est restituée. Qui va monter sur le trône ? Le fils de Honoré III, qui est Honoré IV. Mais Honoré IV avait été emprisonné, il était malade. Il ne voulait plus. Il ne voulait pas régner. Hein. Donc, il donna la main, il passa la main à son fils, Honoré V. Honoré V fit ce qu'il put avec l'argent qu'il n'avait pas lui-même et avec l'argent que la principauté n'avait pas. Et puis, il mourut. Il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant et donc il avait un frère. Donc la principauté revint à son frère Florestan. Une catastrophe. Florestan était uniquement un artiste. Il aimait le théâtre, il aimait la musique, ce qui est bien pour nous, mais il n'était pas du tout un gestionnaire. Et c'est là que le destin fut clément pour la principauté de Monaco, parce que le destin lui fit épouser une certaine Madame Gibert, qui faisait partie des grandes familles champenoises, enrichies par le champagne. Et avec la dot que Caroline Gibert apporta, rien qu'avec la dot, les finances de la principauté furent assainies. Et si Florestan était un incapable pour gérer la principauté, sa femme, entre parenthèses, qui était fort laide. Quand on voit les photos, les portraits de Caroline Gibert, on dit vraiment, c'est pas la femme qu'on a envie d'épouser. Mais c'était une femme de tête, une femme riche et une femme de tête. Et c'est elle qui remit à flot les finances de la principauté de Monaco. Et soudain, la principauté de Monaco put recommencer à vivre. Et Caroline Gibert prit deux décisions capitales. La première, et vous allez voir, ça a des conséquences sur la création de notre orchestre, demander à son fils, qui était Charles III, d'épouser l'une des plus grandes fortunes d'Europe. Ah, elle avait les pieds sur terre. Hein. C'était Antoinette de Mérode. Et Antoinette de Mérode arriva avec une dot si considérable que Charles III put commencer à construire Monte-Carlo. sa première décision de Caroline Gibert. Si on est ici aujourd'hui, on doit beaucoup à cette femme, hein, dont on n'a plus entendu parler, Caroline Gibert, la femme, l'aide, du prince Florestan. Deuxième décision qu'elle prit, comment renflouer les caisses de Monaco en dehors de la dot de sa belle-fille en créant un casino. Et c'est elle qui eut l'idée de créer un casino. Alors, casino, ce n'était pas encore à Monte-Carlo, c'était à la Condamine. On était en 1856 et avec un casino, il y a toujours un orchestre. Et c'est là qu'a été créé le premier orchestre symphonique de Monte-Carlo, enfin de Monaco encore, puisque Monte-Carlo n'existait pas, grâce à Caroline Gibert. Et j'ai retrouvé le premier programme de l'orchestre qui avait été confié à un compositeur, à un chef d'orchestre qui s'appelait Alexandre Hermann. Et ce jour-là, eh bien, il y eut au programme, avec un orchestre certes réduit, hein, mais quand même, une œuvre qui était une œuvre des plus connues de l'époque, qu'on a un peu oubliée depuis, qui était la muette de Portici de Auber. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Portici. Auber, c'était le grand compositeur d'opéra français dont tout le monde parlait. Si vous allez à Paris, vous savez, la station RER Auber, c'est lui, à côté de l'opéra, c'est Auber. Et bien voilà, on va écouter un petit peu de la muette de Portici. Premier concert de l'orchestre symphonique de Monte-Carlo, créé grâce à Caroline Gibert. Alors, je ne vais pas vous faire... Je vais aller un petit peu plus loin, là. Voilà, par ici. Là encore. Voilà la muette de Portici qui a été au programme du premier concert de l'orchestre symphonique de Monte-Carlo, l'orchestre du casino, hein, de Monte-Carlo. On l'appelait d'ailleurs à un moment l'orchestre des bains de Monte-Carlo aussi. De Monaco, pardon, puisque Monte-Carlo n'existait pas encore. Et donc sous la direction d'Alexandre Hermann. en 1856, l'orchestre est créé. Deux ans plus tard, Charles III, qui avait épousé Antoinette de Mérode, vient à la tête de la principauté de Monaco. Il devint le prince de Monaco. Et c'était le prince qui a vraiment, j'allais dire, fait révolutionné l'histoire de Monaco. Il a eu l'idée de poursuivre ce que sa mère lui avait indiqué comme chemin, c'est-à-dire la création des casinos. Il prit alors cette décision d'investir toute la partie qu'on connaît aujourd'hui comme Monte Carlo, qui était une partie champêtre, qui était un endroit couvert d'oliviers, d'orangers, de citronniers, où il y avait des troupeaux, qu'on appelait le plateau des Spélugues. Plateau des Spélugues, pourquoi Spélugues ? Parce que vers la mer, il y avait des grottes. Et le mot Spélugues, c'était en monégasque, c'était le nom des grottes. Et voilà. Et il a dit, ben voilà, on va construire un nouveau quartier touristique, et on va faire venir le monde entier. Et il a réussi son pari. Il a fait construire le casino, il a fait construire l'hôtel de Paris, et il a commencé à inviter les touristes à venir ici. Et le casino, c'était important, parce qu'on n'avait pas le droit de jouer, de faire des jeux en France. Donc, il savait que les gens viendraient ici à Monaco. Et il fit venir un des plus grands spécialistes des jeux en Allemagne, qui était François Blanc, qui avait fait réussir de manière extraordinaire dans la ville de Hombourg son casino. Donc, il lui fit un contrat mirifique. François Blanc créa la Société des Bains de Mer et Monte Carlo fut lancé. Monte Carlo, c'est le Mont Charles. Hein, c'est le mont qui a été créé par Charles III. Hein, voilà. Bien. Mais il y eut un autre événement considérable à cette époque-là. En 1860, le rattachement du comté de Nice à la France. Car jusqu'alors, Monte Carlo n'était pas intégré dans la France. Monte Carlo était intégré dans le royaume de Piémont-Sardaigne. Monte-Carlo n'a été intégré dans la géographie française qu'en 1860. Et cela a été fait par l'empereur Napoléon III. C'est-à-dire que Charles III eut comme interlocuteur Napoléon III. Et là, Charles III a pris deux décisions extraordinaires pour l'avenir de la principauté de Monaco. D'abord, il a pris le risque de se séparer de Menton et de Roquebrune. Parce que Menton et Roquebrune avaient mal vécu la période de la Révolution, où Monaco n'avait plus d'argent, Menton et Roquebrune étaient pauvres, ils se disaient, si on est rattaché à la France, ça ira beaucoup mieux. C'était un risque énorme, parce que Charles III, subitement, du jour au lendemain, en donnant Monaco et Roquebrune à la France, se séparait des 9 dixièmes de sa superficie. Monaco redevenait un petit état de 2 km² uniquement. C'était un risque considérable. Et bien, il l'a pris. Mais il a pris ce risque, il avait toujours les intérêts financiers, il n'a pas donné Menton et Monaco à Napoléon III comme ça. Il les a vendus. Il a vendu Monaco et il a vendu Menton pour 4 millions de francs. Et Roquebrune, un petit peu moins. Mais voilà, il a fait un intérêt financier. Et seconde chose capitale qu'il a faite dans ses relations avec Napoléon III, il a fait venir le train à Monaco. Parce que Napoléon III est l'empereur qui avait organisé tout le système des réseaux ferrés en France. Et il avait fait venir le train jusqu'à Marseille, puis après jusqu'à Toulon, et puis jusqu'à Nice. Et puis de Nice, il avait l'intention de revenir sur l'Italie. Il n'avait aucune raison de passer par Monaco. Et c'est Charles III qui obtint que le train passe par Monaco. Si le train n'était pas passé par Monaco, ce qui était prévu à l'origine, Monaco serait resté finalement ce village, quoi. Et là, eh bien, Charles III obtint. D'ailleurs, comment dirais-je, l'arrivée du train à Monaco n'est pas quelque chose qui a plu à tout le monde. J'ai lu dans les journaux de l'époque une histoire tout à fait incroyable. C'est un certain monsieur Brigiboule, quelque chose comme ça, qui, apprenant, dont la villa se trouvait près du port de Monaco, apprenant que le prince avait prévu de faire la gare au port de Monaco, c'est pas idiot, hein, avait fait toute une pétition de voisinage pour que le train ne passe pas à côté de sa villa. Parce qu'il pensait que ça lui ferait beaucoup de bruit. Donc, il a ameuté le voisinage et le prince a cédé. Et donc, à cause de ce monsieur, ben, le tracé du train est passé au nord, là où il passe maintenant, au nord de la principauté, alors qu'initialement, la gare devait être sur le port. Voilà. Parenthèse fermée. Mais ce qui est important, Charles III a fait venir le train à Monaco. Et donc, les joueurs pouvaient venir. Et les joueurs ne sont pas privés de venir. Et pour être sûr que les touristes et les joueurs viennent jouer au casino, eh bien, il fit construire deux gares. La gare de Monaco, qu'on a connue, hein, à l'entrée de la principauté, mais une autre gare qui se trouvait au Fairmont, à l'heure actuelle. Et donc, les joueurs descendaient du train, prenaient l'ascenseur, et ils étaient à leur table de jeu. C'est extraordinaire. Ce Charles III, avec la complicité de François Blanc, était un génie et a révolutionné, évidemment, la principauté de Monaco. Et l'avenir de Monte-Carlo par là même. Et les jeux ont tellement bien marché, il est devenu tellement riche, qu'en 1869, il a pris une décision que les princes actuels peut-être regrettent, de supprimer les impôts. C'est lui qui a décidé, ça sert à rien, on gagne tellement d'argent au jeu de Monaco qu'on n'a plus besoin de faire payer les impôts. Alors peut-être que les princes, maintenant, enfin aucun prince, je pense, n'osera remettre les impôts à Monaco, mais peut-être que certains le regrettent, mais ça c'était Charles III. Alors donc, on revient à notre orchestre qui a été créé en 1856, et évidemment avec tout l'argent qu'on a, ben l'orchestre ne va cesser de grandir. Et après Alexandre Herrmann, un autre chef d'orchestre a été nommé, un chef d'orchestre dont on a oublié le nom, mais vous allez comprendre pourquoi, qui m'intéresse beaucoup, c'est Eusèbe Lucas. Vous direz, Eusèbe Lucas. C'était le premier grand chef d'orchestre de l'orchestre symphonique de Monaco, qui s'est appelé à ce moment-là l'orchestre du Cercle des étrangers. Hein, parce que c'était un orchestre qui était plutôt destiné aux touristes. Hein. Un orchestre, d'ailleurs, qui jouait beaucoup plus que l'orchestre actuel, puisqu'il donnait deux concerts par jour. Un début d'après-midi et un fin d'après-midi. Ah, bon. Eusèbe Lucas a été nommé à sa tête. Il est resté pendant une quinzaine d'années. Et qui était cet Eusèbe Lucas et pourquoi il m'intéresse tout particulièrement? C'est un flûtiste à l'origine, qui est devenu chef d'orchestre, mais qui est également journaliste. Voilà, vous voyez, hein, quoi, chef d'orchestre, musicien, journaliste, voilà, c'est quelque chose qui me plaît assez. Et c'est un chef d'orchestre, enfin, ce chef d'orchestre, un journaliste qui a fondé le Journal de Monaco. Monaco, il n'y avait pas de journaux à Monaco, il a fondé le Journal de Monaco, qui ne s'appelait pas Journal de Monaco au début, il s'appelait l'Éden. Et j'avoue que c'est quelque chose d'ultra pratique. Hein. Lorsqu'on écrit sur l'histoire de Monaco, eh ben on peut consulter au palais ou même sur Internet, ce que je fais bien sûr, le Journal de Monaco à cette époque-là. Et on a tous les renseignements sur la vie mondaine de Monaco. Mais Eusèbe Lucas, qui était chef d'orchestre, qui dirigeait les symphonies de Beethoven, de Mozart à cette époque-là, était également l'éditorialiste du journal. Et en première page du journal, eh bien, il y avait chaque semaine un édito de Eusèbe Lucas dans lequel il parlait des problèmes de la société à l'époque, des problèmes de guerre en Europe. Voilà, c'était à la fois un journaliste et un musicien. Et donc, comme il avait de l'argent, il fit grandir l'orchestre. L'orchestre passa de 20 musiciens à 30 musiciens à 40 musiciens. Et il fit venir
un instrument, oui, un instrument, je pense, un instrumentiste, parce que ce n'était pas encore une femme à cette époque-là, importante, un instrumentiste important, la harpe. Non, voilà. Il y avait de harpe, il fait venir l'harpe. Et comme il était flûtiste, il put se faire le plaisir de jouer le concerto pour flûte et harpe, qui était le plus célèbre à l'époque et qui demeure d'ailleurs le plus célèbre. C'est le concerto pour flûte et harpe de Mozart. Nous écoutons quelques mesures. Pardonnez-moi. Donc, concerto pour flûte et harpe de Mozart, que Zeb Lucas se fait un plaisir de jouer, bien entendu, avec le harpiste qu'il a engagé. On est en 1874. L'orchestre a déjà 80 musiciens. C'est déjà vraiment un grand orchestre symphonique en 1874. Et quel est le programme ? Alors, j'ai consulté évidemment des programmes de l'époque, grâce aux journaux, grâce au journal de Zeb Lucas, et on peut constater qu'il y a énormément de musique française. Symphonie de Beethoven, tout ça, de Mozart, pas trop, mais énormément de musique française et de compositeurs qu'on a complètement oubliés. Je vais vous citer des noms, par exemple. Alors, dans un certain programme, il joue Montano et Stéphanie de Berton. Les aveugles de Tolède de Méhul. Alors, Méhul, c'était un compositeur de la Révolution française. Le père Gaillard de Reybert. La perruche de Clapisson. Les dragons de Villard de Maillard. Oui, c'est plus connu. Jeanne d'Arc de Georges Pfeiffer, etc., etc. Plein de compositeurs. Les compositeurs contemporains de l'époque, bien entendu. Alors, dont beaucoup ont été oubliés. Alors, il y en a un autre qui est évidemment beaucoup plus...
beaucoup plus connu et que Eusèb Lucas a mis à son programme, c'est Berlioz. Berlioz est évidemment très connu. Berlioz est venu à Monaco. Berlioz est venu à Monaco et dans le journal de Monaco, on annonce « Monsieur Berlioz arrive ». C'était en 1868, là. Hein. Donc, l'arrivée de ce grand compositeur français. Hélas, ce ne fut pas bien pour lui, puisque Hector Berlioz se hasarda sur les rochers, là, et il tomba. Et on le ramassa dans une flaque de sang, évanoui. 1868. Et qu'est-ce qu'il ramassa ? C'était des ouvriers qui étaient en train de faire la ligne de chemin de fer dont je vous ai parlé tout à l'heure, en 1868. Donc, on est revenu un petit peu en retard. Et puis, Berlioz fut soigné à l'hôtel de Paris. Et puis ensuite, il fut ramené à Nice où il séjournait. Et puis, il fut ramené à Paris. Il mourut peu de temps après. Mais Berlioz, donc, a été honoré, bien sûr, à cette époque-là. Et par la suite, alors ça sera pour l'année prochaine, bien sûr, par la suite, lorsque Raoul Gainsbourg, le légendaire directeur de l'Opéra de Monte-Carlo, donna en première mondiale la damnation de Faust. Parce que la première mondiale de la damnation de Faust a été créée ici, à l'Opéra de Monte-Carlo. Donc voilà, tous ces compositeurs qui sont joués. Et Eusèb Lucas, en 1875, veut donner, j'allais dire, une pièce moderne d'un compositeur qui s'appelle Georges Bizet. Vous connaissez l'auteur de Carmen. Mais Georges Bizet a créé une pièce qui s'appelle l'Arlésienne, que vous connaissez aussi, pour accompagner la pièce d'Alphonse Daudet. Mais en quoi cette pièce est moderne ? C'est que pour la première fois, il utilise un instrument qu'on n'avait jamais entendu jusqu'alors, le saxophone. Le saxophone était un instrument moderne qui venait d'être inventé par un facteur d'instruments belge qui s'appelait Adolphe Sax, et qui avait donné son nom au saxophone. Il se serait appelé big, l'instrument se serait appelé le bigophone. Alors, mais saxophone, voilà. Et donc, on entendait pour la première fois le saxophone. Eh bien, je vais vous faire entendre cette œuvre contemporaine que Eusèb Lucas avait eu l'audace de programmer. On va, je pense, presque terminer par là. Puisqu'on arrive presque au bout du temps qui m'était imparti. On va écouter le début de l'Arlésienne. Voilà.
Thank you. Au bout du temps. Et bien voilà, donc, c'est en faisant entendre l'arlésienne et le saxophone qu'en 1876, Eusèbe Lucas a fini son mandat de chef d'orchestre et on fit venir par la suite un des plus grands chefs d'orchestre qu'on ne pouvait trouver, ça a été toujours le cas ici à Monaco, à Monte-Carlo, et c'est toujours le cas maintenant, on fait venir les plus grands chefs d'orchestre. Et ce chef d'orchestre, ce fut ce monsieur, qui est Roméo Accorsi, qui était le neveu d'un grand compositeur, Gaetano Donizetti. Grand compositeur Donizetti, il avait un neveu qui avait travaillé la musique avec lui. Et c'est ce chef d'orchestre qu'on choisit pour diriger l'orchestre symphonique de Monte-Carlo. Alors, nous avons passé une heure ensemble. On était partis de là. Et je vous ai dit que si on fait d'autres séances sur l'histoire de l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, la séance suivante commencera ici. Mais en tous les cas, pour ce matin, la boucle est bouclée. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Le principe, c'est de vous raconter l'histoire de l'orchestre dans l'histoire de la principauté. Mais là, au moment de la Révolution, il y avait quand même beaucoup de choses à raconter. Voilà. Donc, on verra si on continue.